Jean Giraudoux, Siegfried et le Limousin. C'était en janvier 1922. Déjà les civils avaient achevé d'user tout ce qui leur avait été laissé par l'intendance de leurs vêtements de la guerre. Les militaires, les derniers uniformes rouges et noirs qui leur restaient d'avant 14, et leur couleur dans la vie était désormais définitive. Mais les diplomates s'épuisaient encore à placer, alternativement, dans un ciel ensoleillé et dans un ciel brumeux, à Cannes, puis à Boulogne, à Gênes, puis à La Haye, une clé de voûte pour l'Europe. Je lisais chaque jour les journaux allemands, dans l'espoir d'ailleurs toujours déçu, d'y trouver un mot, un seul mot aimable ou juste à l'adresse d'un Français, fût-ce de Français internationaux, comme Jeanne d'Arc et Cachin, ou d'une région de la France, fût-elle indivise, entre la France et d'autres nations, comme le Pays basque ou catalan. Lorsqu'un matin, je fus arrêté net dans ma lecture par un passage de la Frankfurter Zeitung. Le voici dans la traduction que j'en pris aussitôt. Élisabeth de Bavière et l'empereur voulurent se baigner dans le Königssee et Adélaïde leur trouva des maillots, d'ailleurs mangés au mythe. Comme les souverains déshabillés arrivaient au lac, deux jeunes gens sortaient de l'eau et s'étaient en costume aussi délabré, leur fils Rudolf avec Dora Windsor, l'actrice. Chacune des femmes observait l'autre par les trous du tricot, comme par un trou de serrure. L'empereur et l'archiduc n'ayant que des caleçons, on voyait le cœur impérial battre deux fois plus vite que le cœur princier. Le couple jeune était ruisselant, avec des épaules gourmées, dont le soleil, s'y était une fois pris, ne pouvait plus se détacher, et des membres qui continuaient à s'allonger dans l'air comme dans l'eau du bain. Le couple âgé, terne et tout sec, d'une sécheresse telle qu'elle en paraissait morale, et il se hâta d'entrer dans le lac comme dans une eau qui rajeunit. J'avais de bonnes raisons pour être frappé par ces phrases. Je les connaissais. Je les avais lues, oh, voilà 10 ans, un jour qu'elles étaient nouvellement nées en française, dans un récit dont l'auteur était mon ami forestier, disparu pendant la guerre. Mais ce qui m'étonnait, ce n'était pas de voir un journaliste démarquer un texte qu'il pouvait croire oublié. C'était que son article, ou si j'acceptais le plagiat, contint ce que j'avais trouvé de plus impartial et de plus élevé, à beaucoup près, depuis qu'on avait commencé ma revue de presse allemande. Pour prétendre, le 3 janvier 1922, que c'était dans la quinzaine après la victoire zizite de Gobineau que Nietzsche avait écrit pour la première fois le mot « surhomme », Wagner le mot « Parsifal », et qu'Élisabeth de Bavière avait conçu son cirque, il fallait à un critique de Francfort une âme peu commune. La langue de l'auteur aussi me semblait originale. Il y faisait un usage presque neuf pour l'Allemagne de la litote et de la paraphrase. Et non moins originale la modestie avec laquelle il signait de 3 initiales qui ne me permirent pas de bâtir sur elle un nom connu, S.V.K. Ces dernières constatations s'accordaient mal avec l'hypothèse d'un plagiat ou d'un vol, et l'après-midi, je demandai à la Nationale cette revue où j'avais lu à sa naissance la nouvelle de Forestier. Je ne m'étais pas trompé. La description du bain était la même, avec quelque chose cependant de moins guindé et de plus radieux, bien que son premier auteur fût mort et le second vivant. Un père et un fils brouillés se retrouvaient à la baignade. Jean arriva en tricard avec Michel. Depuis 30 kilomètres, il longeait la Vienne avec la terreur qu'elle obliqua souvent d'un trop à droite ou trop à gauche et qu'il ne fut pas possible de se baigner avant le déjeuner. Le tricard était encore chaud lorsqu'ils se précipitèrent vers l'écluse et la vallée fut bientôt tapissée de cris sonores mais qui ne s'élevaient pas, prononcés qu'ils étaient par deux bouches au ras du fleuve. Les baigneurs allaient sortir quand ils aperçurent, près du bord, le père de Jean et Olga Armando. Ils se replongèrent dans l'eau jusqu'à leurs visages qui n'arrivèrent ainsi qu'à rendre plus distincts et plus reconnaissables. Puis se décidèrent, les deux femmes s'observant par les trous des maillots mangés aux mites comme par les trous de serrure, le couple âgé, tout sec, d'une sécheresse telle qu'elle en paraissait morale, bien que les yeux d'Olga Armando fussent soudain humides. Le destin prenait de telles ruses depuis le début de l'année pour ne pas me laisser oublier un seul jour forestier, donnant à mon frère une fiancée qui portait ce nom, absorbé le soir du mariage par le mien, son rôle de Manet et celle Fares terminé, me faisant découvrir dans mon bureau une liasse de lettres et de manuscrits que Forestier y avait placés le jour de son départ, m'apprenant par une carte postale de Séville que les plus beaux jardins d'Andalousie s'appellent Jardin Forestier, de ce Français qui les traça, que je vis dans ce nouvel épisode un de ses détours. Toutes les lignes que je jetais dans l'inconnu se relevaient avec ce nom. Je devins plus attentif. J'amorçai. Je relus le seul livre que mon ami eut publié. Bien m'en pris, car 15 jours plus tard, je constatai que dans les colonnes de la Frankfurter, le plagiat continuait. SVK, dans le même article, démarquait 3 phrases. Par hasard, ou était-ce un hasard, il était question dans ces 3 phrases de rivière, de lac, d'eau enfin. Penseur original en 3 éléments, dès qu'il touchait au 4e, SVK empruntait à Forestier. Aujourd'hui, j'écris de mon lit, d'où je vois le lac. Tous les stylos sont cassés dans la villa. Je transporte plus mes d'encre après plusieurs d'encre au-dessus de mon drap. Pas de trash encore. Le seul homme qui fut joyeux, mais vraiment joyeux après l'amour et qui eut traversé la Manche à la nage. Oh, je sais quelle sera ma mort. Une locomotive éclatera près de moi. Ou plutôt, oui, c'est bien cela. Une vipère se prendra dans la roue de mon automobile qui le projettera à ma tête. Elle me piquera. On m'étendra dans une prairie le long d'une rivière avec 2 petits trous rouges à ma joue. Dans SVK, plus romantique comme il le devait à sa race, chaque roue lançait une vipère et une mourue avec 8 trous rouges au visage au lieu de 2. Malgré cette sensible altération du texte, je fus cette fois froissé. On pillait le livre de Forestier comme on aurait dû piller son portefeuille la nuit où il était tombé entre les lignes dans un no man's land à cette époque grouillante encore de monde. J'écrivis pour SVK une lettre ouverte que je portais au directeur de notre principale revue hebdomadaire. C'était un socialiste octogénaire qui avait comme quadragénaire publié les classiques grecs et latins et conservait le ton pleurard qu'il avait comme un unigénaire. Il n'avait pas connu Forestier. Il me calma. « À quoi bon ?» me dit-il. « Ai-je réclamé, moi, contre le Wilamowitz Mollendorf ? Cependant, il a fait sienne ma meilleure dénomination de Penthesile. Tigresse qui, par-dessus sa peau, porte encore une peau de tigre. Oh, il n'a même pas cité mon nom. » J'observai qu'il s'agissait, dans le cas Forestier, d'un pillage hebdomadaire et qu'il ne se justifiait pas, à la rigueur, comme pour Tigresse à manteau de tigre, par le prodigieux intérêt de l'expression. « En effet, dit-il, Tigresse, c'est une trouvaille. Mais j'ai été victime de plagiat, moins indispensable. » Dans ma critique de la mise en scène du banquet, des sophistes ou figures rhétoriques, musiques, gymnastique et autres cousines, j'appelle instruction publique, qui se jette au cou de tous, petite grue pas chère. Avouez que BAP n'était pas français de reprendre ce mot, comme il l'a fait dans le Leipziger Studien. École Müller, non pas W. Müller, mais L. Müller en personne, avec son acolyte Lachmann, le vrai, le seul Lachmann, ravissent pour relevamen et consolamen l'épithète de forme monstre que j'ai donné après Kishra à ces mots barbares, repérés, j'avoue, depuis dans Priscien et dans Saint-Jérôme. Croyez-vous sincèrement que lui, Lachmann, ne pouvait trouver mieux ? Il me retint. « Et surtout, mon cher petit, quelle importance ont ces querelles ? Ou plutôt n'est-il pas avantageux que Forestier, dont la vie est l'œuvre fulgurante ? Si vous me permettez de plagier à mon tour Beyrens dans son éloge de Firmicus Maternus, on pénétrait par embrasement dans le jeune français. Ça insinue peu à peu dans l'appareil raisonnable d'un écrivain allemand, fût-ce par fragments aussi gros. Votre SVK a oublié de mettre des guillemets. Mais y a-t-il des guillemets autour des parcelles du corps de votre ami, qui sont Sebun et Husfeld, que je cite là, qui sont peut-être amalgamés déjà au corps d'un bel enfant ou d'un jeune tilleul. Laissez-moi vous apprendre, pour conclure, que le mot bloc, dont l'univers entier croit Clémenceau le père, fut imaginé par un de mes élèves et amis, Joseph Casanova, qui usa le premier de ce vocable dans le Réveil du Nord. Joseph Casanova figure actuellement à l'Office des réparations, mais croyez que son mot bloc est la dernière créance qu'il songea réclamer. Il y eut vers la fin du mois, entre l'Allemagne et la France, une période de plus grande tension, pendant laquelle barrages intellectuels et commerciaux se rétablirent. Les douaniers allemands déchaussaient les Français qui sortaient de la Hesse avec des souliers neufs, ou ne laissaient que leur oiseau à ceux qui avaient acheté des cages. Le malheureux, surpris à Wissembourg avec des pièces d'or, se voyait appliquer dans la minute la loi sur les faux-monnayeurs. Les monceaux de livres d'art contenus à grand-peine par Leipzig durant la guerre, les biographies mises à jour des cubistes, les suppléments au catalogue de l'art au Gabon, s'amoncelèrent aux gares frontières avec les denrées périssables. La demi-douzaine d'Allemands et de Français qui avaient repris, après combien de scrupules, leur correspondance d'avant-guerre, durent à nouveau l'interrompre. Je ne reçus plus la Frankfurter. Je reçus la Chicago Tribune, que je lisais sans curiosité, car M. McCormick ne s'avisait jamais de démarquer André Gide. La Correspondencia d'Espagna, où l'éditeur non plus ne s'ingéniait guère à glisser les phrases de Marcel Proust. Et la Westminster Gazette, où elle se plagiait si rarement, Francis Vielle Griffin. Le 31 janvier, 7e anniversaire de sa mort, en l'absence de tombeau, on cloua sur la maison que Forestier avait habitée, rue de Condé, une plaque en son honneur. Nous étions entassés dans cette rue devant une haute et antique façade. Tous les gestes que fait un cortège devant une tombe contrariés ici par l'édifice. Nous devions lever la tête au lieu de la baisser, nous tenir sur un rang au lieu d'entourer le cercueil. Cependant qu'aux différents étages, les fenêtres s'ouvraient l'une après l'autre, de locataires désireux d'entendre cet océanonox que clamait Madeleine Rock, fortement excité par le voisinage de l'Odéon, et qui se penchait ou se redressait pour voir la plaque. Toutes ces gargouilles humaines donnant d'ailleurs à notre chapelle son véritable mouvement. La fenêtre de Forestier s'ouvrit une des dernières, et il y apparut un enfant et un vieillard, personne avec qui le plus myope d'entre nous puisse se donner l'émotion de le confondre une seconde. Il y avait là, sans leur personnel, les dirigeants des journaux nationalistes et monarchistes, car Forestier appartenait l'après-midi à la revue critique. Et sans les directeurs, le petit personnel des journaux d'extrême-gauche auxquels Forestier collaborait le soir pour gagner sa vie. Lanterne ou Progrès, Civique. Un de ces typographes, se rappelant m'avoir vu avec lui, me remit un manuscrit que la guerre avait empêché de paraître et que personne n'avait réclamé. Forestier y décrivait la mort de Dumas, qui était à tous deux notre plus grand ami. Dumas avait 37 ans. Sur 5 313 000 tonnes d'acier produites en France, les usines de Dumas en donnaient 3 800 000. Tous les Français, réunis sur le plateau de la balance adverse, ne l'auraient pas fait pencher. Il était le Français le plus connu en Russie, le seul connu en Afghanistan. Dans le monde entier, on appelait un Dumas le bouton pour pression qu'il inventa à 22 ans, pendant son agrégation des lettres. Et un Dumas aussi, le câble transafricain qu'il découvrit comme agrégé de droit. Et un Dumas, le modèle de maison ouvrière qu'il exposa comme diplômé des langues orientales. Et Acier Dumas, l'acier du procédé qu'il conçut au cours de sa présidence de la conférence Mollé. Après le mot « Pasteur », le mot « Dumas » devenait l'épithète purifiante et consolante de l'univers. Libéré par lui de la pesanteur sociale, tous dans son entourage se sentaient devenir écrivains, musiciens ou poètes. Les jours où il séjournait, des légions d'aquarellistes cernaient Rive de Gier ou Lens. Les femmes l'adoraient, car toute pauvreté, tout accident et par analogie toute laideur, tout eczéma entrevu par elles dans la rue, se reliait dans leur pensée à Dumas, par une sorte de repos, l'arc-en-ciel Dumas sans doute, qui les absorbait, elles et leur luxe, au regard de tant d'injustices. Un matin de juin, il fit arrêter son automobile au bord d'un ruisseau, plongea et ne reparut plus. Pour sa mort, pas de funérailles, de testament, de partage, car il n'avait pas voulu de la fortune, et il ne resta de lui que les 20 mains de bronze qu'on venait de fondre sur un moulage de sa main qu'avait pris Geneviève Prat. On chercha longtemps le corps dans le ruisseau, puis dans la Seine, mais il y avait un fort courant. Il y eut ensuite une tempête et il ne reste plus d'espoir de le retrouver qu'au milieu de la mer. Quelques jours après, la tension internationale qui foudroyait les voyageurs aux gardes frontières baissa de quelques volts. On rendit à l'oiseau impatient sa cage de Berlin, aux pieds nus des Français leurs souliers en carton veau, et à moi ma Frankfurter. Je l'ouvris avec angoisse, mais je ne me doutais pas de ce que me réservait le début même du premier article. Müller, y disait Sveka, avait 37 ans. Il était l'Européen le plus connu en Russie, le seul connu en Afghanistan. Un matin de juin, il arrêta sa voiture près d'un ruisseau. Je ne comprenais plus. J'avais fait le vœu de résoudre cette énigme quand la Providence se défit dans ma faveur du meilleur agent de renseignement sur l'Allemagne. Je retrouvais Zelten. Un jour, je fus convoqué par mon marchand de dessins et au lieu d'approcher dès mon entrée en sa boutique ce carton que l'on suspend céleste avoine aux naseaux des notaires ou des boursiers qui ont dételé 1 heure pour chasser le pillement, il me poussa vers 3 dessins posés à plat sur un tréteau, ainsi qu'on pousse un enfant sur une montagne suisse vers la table protégée de verre qui explique le paysage et indique les cimes. C'étaient trois dessins, en effet, qui expliquaient à peu près tout ce qui se trouve d'élevé et de lumineux aux environs de l'âme. Il n'est jamais hors de propos de décrire un dessin de poussin. Oui, c'était trois poussins. Le premier était minuscule, aux 10 cm à peine sur 15. Il représentait une ville dont l'aspect seul vous faisait venir à la bouche, comme l'a vu d'un fruit sa saveur, un beau nom féminin. Avec ses 12 portes, sa tour de Babel, ruinée à partir du 8e cercle, sa tour de Pise achevée mais penchée, son Odéon, son fleuve peuplé de laveuses et de marins, dont je voyais aussi les 3 enveloppes, corps, ombres et reflets. Sur les ponts passaient des caravanes. L'armée des cavaliers, maîtresse des faubourgs, fourbissait les chars dans la forêt d'If, qui dominait la capitale, ennemie, dont on voyait tout juste les cathédrales et les piscines. Toute cette agitation, ce foisonnement de monuments et de peuples, on sentait qu'il était le masque d'une toute petite opération immortelle et méconnue qui s'accomplissait ce jour-là. Mort d'un philosophe ou naissance d'une martyre. Dans l'immense ciel, un oiseau. Le second dessin avait ceci d'inestimable pour moi, que le principal personnage me ressemblait. Jamais photographie n'avait mieux marqué ce qui restait de mon visage quand la marée du soleil à son plein l'avait recouvert. Il était daté de Rome et de mai 1648. Je me promenais au bord du Tibre. Tout l'éclat romain et du printemps 1648 était étalé autour de 4 petits écueils à la sépia qui étaient mon nez, mes sourcils et ma bouche. Ce qui marquait de mon visage sur la neige, je le voyais marqué sur l'âme du poussin. Dans le ciel volait le même oiseau, un peu rapproché cependant, et tout au fond, sous un bosquet, dormaient 2 personnages qui étaient ma fille et mon gendre nu, Narcisse, je crois, et Écho. Le troisième dessin était le même héros sur son lit de mort, était ma mort. Mais revenons à Zelten. Quand j'eus demandé le prix de ces dessins et que je les eus ravis en échange de quelques billets qui servaient non à les payer mais à payer ceux que je devais déjà, car un amateur croirait un dessin déshonorant s'il l'achetait comme une marchandise au lieu de se libérer par un système de rançon payant le Nicole emporté le mois précédent pour avoir le Hubert Robert et le Granet de l'an passé pour saisir le Piranèse, j'appris qu'ils avaient été apportés d'Allemagne par le petit comte von Selten, qui les avait choisis à cause de cette ressemblance et avait demandé qu'on me prévînt. Il me faisait dire qu'il possédait un autre carton, si j'aimais toujours les Rembrandts, et qu'il serait tous les soirs vers 6 heures à la rotonde, si j'aimais toujours les Bosch. Il était 5 heures. Je me hâtais au rendez-vous avec l'aide d'une ligne d'autobus de nouvelle création, mais que de celle-t-elle, justement, aurait eu jadis grand avantage à connaître, car son parcours touche successivement, par hasard ou par bonté municipale, les 4 monts de piété épars dans Paris. À l'angle du boulevard Raspail et du boulevard du Montparnasse, à la terrasse d'un café au milieu de laquelle parmi les tables débouchait la sortie du métro, j'attendis donc Zelten. C'était un de ces beaux soirs de mars où le soleil n'est pas encore soutenu 1 heure de plus au-dessus de l'horizon par les députés ouvriers, et dès qu'il effleurait la ville, il s'étalait comme un œuf sur la gare et la tour Eiffel. À cette intersection de la route d'Orléans et des routes de Dreux, à ce carrefour où les seuls passants ne devraient être que des tourangeaux, bosserons et cocassiers de Choisy, était installé tout ce que Paris compte de japonais expressionnistes, de suédois cubistes, d'islandais graveurs, de turcs médaillés, de Hongrois et de Péruviens à vocation complémentaire, chacun agrémenté d'une demi-épouse à un maquillage individuel et dont aucune n'employait les mêmes couleurs pour les yeux et ou les lèvres. Chacun, dans l'accoutrement qui le faisait passer pour fou dans sa ville natale, mais qui représentait dans ce quartier, et pour la concierge elle-même, le minimum de l'extravagant. Des femmes seules se levaient parfois, c'est qu'elles allaient tirer la flamme en veilleuse du comptoir pour allumer leurs cigares. En face, le café rival à l'ombre, quand la rotonde était au soleil, et au soleil des colombes enveloppaient la rotonde, mais personne jamais ne traversait la rue, à part un créole qui se déplaçait avec le soleil et une pianiste congestionnée qui cherchait le frais. À part aussi celui qui venait de se brouiller avec son groupe, de renier son art et ses frères, de changer de couleur pour les ombres ou d'idéal politique. Sur l'autre angle du boulevard, enfin, le restaurant bâti, où, laissant les étrangers arracher à des journaux de leur pays une charcuterie qu'il suffit de montrer à la glace pour lire, sur elle imprimée l'éditorial de Bergen ou de Kiev, venait mourir leur âme de bourgueuil et de portugaise, Vincent Lindy, Bernard Naudin, et à la terrasse le principal entrepreneur des pompes funèbres du quartier, que saluaient de leur corbillard les cochers et les convois, nombreux si près du cimetière. J'étais sûr avant la guerre de rencontrer Zelten dans ce triangle maçonnique, à la seule heure où coulent enfin dans les verres à boire les couleurs des bocaux des pharmacies, où chaque table reçoit alternée la visite des chiens pour le sucre, des sourmets pour les deux sous, de ces dames pour le briquet et pour le franc 50 de leur taxi, et celle de Rosita, dégrafée, exigeant de chaque inconnu qu'il dessina au stylo sur son album, les yeux fermés à un cochon. Si vous aimiez l'aventure, il suffisait d'aller répondre au téléphone. Des voix étrangères vous y parlaient dans une langue inconnue. C'est sur cette fourmilière que Damali avait formé le projet de se laisser tomber par mépris et par vengeance. Il avait loué une chambre au cinquième, mais, effrayé par la bouche du métro, il s'était orienté vers la carrière de parachutiste qu'il avait rendu riche et célèbre. À la table même où j'étais assis ce soir, j'avais eu pour voisin, quelques secondes, un dîneur à part-dessus qui réclamait toujours du bœuf gros sel et du bœuf gros poivre. On a su depuis que c'était Trotsky, et personne dans l'établissement n'en conçut la moindre surprise, car personne du café, et de ce café seul, et peut-être de ce lieu seul au monde, ne désespère du voisin le plus malpropre, le plus pauvre, le plus grossier, au point de croire qu'il ne peut devenir un jour roi ou tyran. J'attendais Zelten avec quelque angoisse, car non seulement il allait m'aider à percer le mystère SVK, mais parce qu'il était, de mes nombreux camarades allemands, le premier que je revoyais et aussi le plus cher. Dans quelques minutes, lorsqu'il allait marcher sur moi, sa silhouette de face semblable comme toutes les silhouettes humaines à la tranche d'une clé, je serais donc ce qu'il ouvrait, ce qu'il fermait, et si je devais me faire à l'idée que l'Allemagne pour moi n'existait plus. Or, comme tous les Français par peur peut-être de l'eau, ma pensée appuyait volontiers vers le continent. J'étais prêt à en faire le sacrifice, mais j'avais l'impression que je vivrais difficilement sans l'Allemagne, et je me sentais parfois tous les fils qui me liaient à mes amis de Berlin, de Dresde ou de Munich tranché, désorienté sur mon côté allemand, ou comme le chien auquel on a coupé à droite la moustache antenne, qui lui donne sa seconde vue et sa seconde ouïe. L'Allemagne est un grand pays humain et poétique, dont la plupart des Allemands se passent parfaitement aujourd'hui, mais dont je n'avais point trouvé encore l'équivalent malgré les recherches qui m'ont conduite à Cincinnati et à Grenade. L'Allemagne est une vallée où débouche, au milieu d'un populaire parfois sans goût et le chef sans grande conduite, comme le métro dans la terrasse de la Rotonde, des souterrains où les Allemands se croient malins de murer à la fois les armes soustraites au contrôle et les vérités de leur pays, mais où nous étions pas mal en Europe à vouloir cogner. L'Allemagne est une grande plaine créée pour les invasions, et où la France, d'ailleurs, depuis 40 ans, n'a pu expédier que l'accord semestriel de 8 boursiers d'agrégation. Mais j'avais été l'un d'eux et je ne renonçais pas à ma conquête. Un pays où les espèces sentimentales sont à ce point matérielles qu'il est aussi nécessaire d'en posséder les appellations que celles du pain et de la bière. Mais j'avais besoin d'une race où les mots qui signifient âme ou intime ou moteur animal sont les premiers du Baedeker au vocabulaire pour cocher. J'avais gardé de Zelten, qui le personnifiait pour moi, un souvenir qui ne m'avait jamais permis de l'englober dans cette haine pour l'injustice et l'Allemagne que tous les Français, à part ce collectionneur de timbres d'Asnières, qui légua ses îles Maurice, Orange et ses Hawaï cébrées à Guillaume II en pleine attaque de Verdun, ont ressenti pendant 5 ans. Au moment où mon Allemagne avait sombré le plus profondément, il y avait toujours eu pour moi une bouée au-dessus du gouffre qui m'indiquait sa place et qui était Zelten. Zelten avait tous ses défauts, superbes et voyants, dont on ornait chez nous les Allemands jusqu'en 1870, et qu'il va bien falloir trouver un autre peuple pour porter, s'il s'entête à vouloir être chauve, rapace et pratique. Il avait les cheveux blonds en boucle, il sacrifiait chaque minute de sa vie à des chimères, il descendait habillé dans les bassins pour poser la main sur le jet d'eau ou remettre sous la bonnelle le bec du cygne endormi. Il était l'Allemagne. Il ressemblait aussi peu que possible à ces écrivains modèles que la Wilhelmstrasse distribua dès 1914 sur ce qu'elle appelait les centres poétiques de l'univers, Boston, Syracuse ou Delos. De même qu'elle fit circuler des couples géants, amoureux et fidèles aux Rigi, à Stockholm, à La Havane, dans les capitales sentimentales, afin de soutenir le prestige de la poésie et de l'amour allemand. Alors que ses compatriotes semblent maintenant avoir pour chaque ordre d'action ou de pensée une commande distincte, la boîte de vitesse en Zelten n'existait pas. Et quand, par exemple, il devint sportif, tous les gestes qu'on accomplit nus et sans pensée se trouvèrent chez lui amalgamés aux actes qui commande le plus de vêtements et de dévotion. Il ne se baignait dans le Rhin qu'en plongeant du pont d'où Schumann s'était jeté. Il sautait à cheval le mur dont était tombé Beethoven dans la chute qui causa, dit-on, sa surdité. Il était de taille moyenne, mais beau, surtout au jour, ce qui le désespérait car il n'arrivait guère à se lever avant 5 heures. Mais au coucher du soleil encore, les femmes peintres de la Rotonde, qui devaient épouser un baron en Balte pour assurer un père légal à leur enfant, les étudiantes russes qui s'étaient résolues à épouser un Français pour obtenir, ainsi naturalisé, le droit d'exercer en France la médecine, hésitaient à sa vue. Il avait des facilités en tout, sport, éloquence, peinture, excepté dans le madrigal et le triolet, qu'il s'obstinait à vouloir transplanter dans la poésie rhénane. Je l'avais connu à Munich, alors que, plein de raisons déjà, à l'âge où je me hasardais à fumer des abdoulas et à boire de l'anisette, il avait épuisé morphine, cocaïne et quelques autres remèdes de Dieu moins connus, tels que l'épine de Mossoul et le schwab. Dans les environs des mares, il se donnait pour agent de renseignement. Sachant que ces résines suintent de préférence autour des grèves internationales un peu louches, flattant l'Algérien chargé de la propagande en Algérie pour obtenir du kiff, et de l'adjuvant du bureau M pour ses tablettes de bétel dur. Des drogues peu coupables telles que la grenadine et le maple syrup qu'il avait obtenues d'un déserteur américain lui versaient d'ailleurs en raison de leur source la même exaltation. Dès que l'esprit de bonheur, du moindre bonheur, soufflait sur lui, il arrivait en une seconde à une estime immodérée de lui-même, car il tenait un compte raisonné de tous ses actes, qu'il accomplissait d'ailleurs d'instinct, et les souvenirs de toutes ses bonnes actions s'épanouissaient à la moindre tiédeur. L'année qu'il avait sacrifiée à un ouvrier malade, le sentiment de n'avoir jamais transigé sur ce qu'il croyait son talent, même pour acclimater le triolet. À la première contrariété, au moindre gel, par contre, cette estime se muait en le mépris le plus complet de Zelten et de son existence, car les souvenirs infamants arrivaient en foule, car il avait emprunté secrètement à une caisse qui n'était pas la sienne, car il avait quelque peu caressé sa belle-sœur Barbara. Il y avait des chances pour que le mouvement de balancier en 7 ans se fût, grâce à 7 hivers et à 7 étés, amplifié jusqu'à l'admiration et à la haine, pour que le comte de Zelten eût sauvé 2 ou 3 ennemis de la mort, sacrifié sa fortune, donné son sang pour une transfusion, et d'autre part, fut devenu alcoolique, ai-tu raison, finalement, de Barbara. Brouillé avec son père en constatant le jour où il voulait le voler et que ce père n'avait pas pris le nom de son fils pour mot du coffre-fort. Endormant ce même père au laudanum pour l'embrasser sans qu'il s'en doutât. C'était si émouvant, me dit-il. Il sentait l'opérer. Tel était l'agent que m'expédiait dans ce petit café, comme pour un rendez-vous du deuxième bureau, Goethe, Nietzsche et quelques autres, cependant qu'un convoi funèbre se hâtait dans le crépuscule vers l'arbre qui fait partie à la fois de l'avenue et du cimetière Montparnasse, et me fournissait le moyen de reconnaître le nombre exact de Français ou de Françaises distribués dans la foule de la terrasse, car les Français seuls au monde saluent les morts dans la rue. Soudain, je ressentis l'appel qui prévient les suggestionnés de l'approche de l'hypnotiseur. Il vint sans dire que Zelten avait un pouvoir magnétique et m'avait même une fois endormi. Pendant la guerre, à 2 ou 3 reprises, j'avais cru percevoir cette succion d'un esprit parfois tellement vive qu'elle semblait venir de la tranchée d'en face. Zelten, si je me laissais guider aujourd'hui par ce message, prenait en ce moment le tramway vert au Quai d'Orsay. Ben, il l'échangeait maintenant à l'école militaire pour le tramway jaune. Il utilisait en 7 minutes la section chevauchante avec plaque rouge du boulevard des Invalides. Il allait descendre de la deuxième voiture qui stopperait devant la rotonde. En effet, il en descendit. Il en descendit à reculons, et pour aider à en extraire un pensionnat de fillettes, embrassant la dernière et la plus petite. À mesure qu'il approchait de moi, cette jeunesse de silhouette qui m'avait permis de le reconnaître disparaissait de chaque point de son corps sur lequel se posaient mes yeux, et les petites filles ne s'étaient pas encore évanouies dans l'ombre qu'elles s'étaient évanouies. De plus près, je constatais que son côté gauche avait souffert. À gauche, il avait des cheveux gris, des rides, des pattes d'oie. Tout ce qu'il avait pu imaginer pour ne pas laisser la vie et la beauté tomber de lui s'était réduit pendant 8 ans à faire la part de la guerre et du feu. On voyait du premier coup d'œil, pauvre Zelten, que ce n'était pas un gaucher. Ainsi revint Zelten vers nous, ramenant, comme ces poules qui disparaissent à la campagne, toute une couvée du tramway. Il me tendit les deux mains, tenant à ce que le côté sacrifié participât à cette fête. Et s'il avait eu du lot d'un homme, je n'eus pas coupé d'un baiser. Puis il s'assit en me heurtant comme un cheval qui rejoint au brancard son collègue cheval, reformant après tant d'années le vieil attelage avec lequel nous avions tiré bien des fardeaux, excepté la haine et la lamentation. Nous nous taisions, mais il est facile de savoir comment bat le cœur de celui qui donne tout le sucre au premier chien et 100 sous au premier sourd-muet. C'est à ce moment précis, naturellement, que choisit le hasard pour faire passer une Alsacienne en costume. Zelten sourit. « Eh bien, dit-il enfin, tu as cette fois ton Alsace. Celle que je t'avais donnée ne te suffisait plus. » Oui, voilà, 17 ans, en pension à Munich, il avait imaginé un moyen de clore nos disputes au sujet de l'Alsace-Lorraine. Il arriva un matin avec un puzzle qui était une carte d'Alsace collée sur carton et découpée par district. « Il faut vider cette histoire du Leutschland, » avait-il ajouté, « du moins entre nous deux. J'ai la même carte découpée. Quand je t'en jugerai digne, toi ou ton pays, quand je serai pris d'un accès d'amitié pour toi ou pour ton pays, je te céderai un district. Allez, fais comme moi. Quel bel exemple nous donnerions à l'Europe si dans 6 mois tu avais toute ma carte et moi toute la tienne. » Puis il me glissa aussitôt dans la main, pour satisfaction de sa trouvaille et en don d'avènement, le district de Trutzelsheim, perdu en pleine Alsace, où j'atterris ainsi comme d'un aéroplane. Rien d'ailleurs de caractéristique dans le Bédebecker sur Trutzelsheim. Cette session demeure son premier événement historique. Puis, 2 jours après, il paraît que j'avais ressemblé étrangement pendant toute une classe à Galea Sforza. Je reçus Rapotsweiler, et de ce nom en coq, le Baeder Bedwecker me fit la surprise de tirer, lisser, vernis, ribovier. Puis, par esprit de justice et avec sa manie des fichiers, il me rendit un à un les cantons de Lorraine où l'on parlait français. Puis, le jour où j'avais particulièrement ressemblé au Titien jeune, j'eus Bernweiler, patrie de Henner. Puis ne se plaignait pas de me trouver aussi avare qu'il était généreux. Car je feignais d'être impassible. Fut ce jour une de ces grosses colombes du jardin royal qui se nourrissent de gâteaux d'enfants comme les ours, le coussin du collier que portent les champignons non vénéneux, vint se poser sur son épaule dans un de nos voyages à bicyclette, où le premier soir où nous nous entendîmes tous deux, Tristan, en costume de tennis, debout au Stellplatz. Mais à partir du second acte, assis sur l'arc de nos raquettes, je ne cédais ni Bar, ni Starbrück, ni Brumath. Je cédais seulement. Un soir où, tremblant de fièvre, de jeunesse, de nostalgie, pour ce pays qu'il n'avait jamais quitté, il ressemblait, comme il n'a jamais été, ressemblait à un petit Allemand, bon, naïf et fidèle, le dernier minuscule district frontière au sud de Landau, que Clémenceau aussi depuis céda. Si bien qu'à la fin du premier trimestre, tant j'avais ressemblé à César Borgia vieux, à Savonarole le jeune, à Baudelaire, à la fleur de l'âge, il ne lui restait plus que les villes. Il était assiégé de toutes parts. La première petite émotion, le premier reflet de la Renaissance ou de la Réforme sur moi, allait le forcer, car il ne savait se retenir, à m'abandonner Metz, Strasbourg ou Colmar. Il tentait d'esquiver l'issue funeste en me glissant par dérision des districts que je ne pouvais introduire dans mon puzzle et qui étaient ceux de cités allemandes qu'il avait en exécration comme Göttingen ou Bochum. C'est Strasbourg qu'il rendit avant Metz, gardant jusqu'au bout la ville militaire, comme l'eût fait un général respectant instinctivement les ordres de son empereur. Puis vint Heidelberg, cette nuit de lune et de parfum que je passais toute, assis près de lui sur la pierre du château, où justement je ne ressemblais à personne et à peine à moi-même, où les étoiles, sacrifiées à je ne sais quelles amitiés et analogies divines, se détachèrent l'une après l'autre de la carte du ciel, et j'eus Metz. Je n'avais plus qu'à jouer le même jeu avec les 60 autres millions d'Allemands. « Oui, reprit-il. Oh, je me suis battu 4 ans pour reprendre ce que j'avais déjà donné. Il est vrai que je ne l'avais jamais donné qu'à toi. » Et je lui demandais ce qui lui était arrivé en ces 8 ans. « Bon, te dirai cela demain, dit-il. J'ai rendez-vous avec Geneviève Pratt et je ne t'attendais point. Il m'est arrivé tout ce qui arrive aux Allemands, diabolique et romantique. J'ai hérité d'une part dans une fabrique d'objets en caoutchouc. Me suis brouillé avec ma belle-mère et j'ai eu une sinusite à l'état chronique. Je suppose par contre que le sort t'a donné tout ce qui est le lot du petit bourgeois français. Tu as été aimé d'une princesse régnante. Tu as trouvé un nouveau rapport entre les mots et les couleurs. Tu as été jeté sur une Cyclade déserte et y as vécu avec Miss Compton et Lénine. Tu n'as pas changé, d'ailleurs. Tu ressembles toujours à s'y méprendre à Charles XII. Mais quel cadeau pourrais-je bien te faire en cet honneur ? Il se leva, retroussa sa manche gauche et me montra la trace de la balle qui avait amaigri son bras. C'était la première fois, je crois, que je voyais guéri la trace d'une balle française. Un tatouage entourait en soleil la cicatrice. « Tâche de lire, dit-il, le prisonnier Belt Jones, tatoueur du roi que j'ai utilisé pour ce chef-d'œuvre, a voulu que les majuscules fussent gothiques et a entremêlé les mots d'anglaise. Je lus et vite, car déjà approchait Jacqueline Yost, qui collectionne les inscriptions tatouées. L'Allemand qui possède cette peau ne haïra jamais la France. C'est ainsi que j'appris un soir à la rotonde, en payant 2 apéritifs, que ma longue moustache en tête de droite pourrait un jour repousser.